France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Fasse. Et ce matin, nous décollons à nouveau quelques idées reçues, contre-vérités et fake news dans le domaine de la santé, dans un monde devenu plus que jamais perméable aux faits alternatifs. Des idées reçues et fake news plus ou moins dangereuses. Le phosphore, c'est bon pour la mémoire, les vaccins sont dangereux et inefficaces. Lire avec peu de lumière abîme la vue, le stress à lui seul peut provoquer un cancer. On peut tomber malade quand on attrape froid. Et puis on s'intéressera également ce matin à l'essor du complotisme médical et aux moyens d'y résister. Nos invités vous aident ce matin à y voir plus clair. Une émission en partenariat avec le site Doctissimo. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Grand Bien Vous Fasse, Ali Rebéi.
Le meilleur médecin au monde, c'est ma mère. Ma mère, elle est extraordinaire. Elle a toujours la solution quand on est malade. Elle me dit, t'as mal au ventre? Prends du miel. T'as mal à la gorge? Mets du miel. T'as une conjonctivite? Mets du miel. Ma mère, elle est extraordinaire. Déjà, nous petits, quand on était malades, il n'y avait pas d'aspirine. Chez nous, t'as mal à la tête? Ramène-moi un foulard, un citron et un oignon. Elle coupe le citron, elle coupe l'oignon. Elle rigole, tu te rappelles de ça? Elle coupe le citron, l'oignon, elle faisait tout autour de ta tête. Elle le fermait avec un foulard. Toi, tu marchais, ça te brûlait les yeux. Tu voyais plus rien. Ta mère, elle dit, t'as encore mal à la tête? J'ai tellement mal aux yeux que j'ai oublié la tête.
L'humoriste Jalles, et non, le miel, les oignons ou le citron ne sont pas des panacées pour tout soigner. Bonjour docteur Gérald Kirzek.
Bonjour.
Médecin urgentiste, chroniqueur à Télématin sur France 2 et à France Bleu, et vous êtes le directeur éditorial de Doctissimo. Bonjour Laurent Foiry.
Bonjour Ali.
Vous êtes docteur en génétique moléculaire et biologiste, et vous publiez aux éditions de l'Aube un bel essai, Les faux savants plongés au cœur du complotisme scientifique. Bonjour professeur Boris Ancel.
Bonjour Ali.
Vous êtes endocrinologue, diabétologue, nutritionniste à l'hôpital Bichat à Paris et vous êtes chroniqueur dans cette émission. Tiens, comment naissent toutes ces idées reçues en médecine propagées par le bon sens populaire en toute bonne foi, comme on vient de l'entendre dans ce sketch docteur Gérald Kirzek?
Bah avant, c'était les mamans, c'était les grands-mères, c'était dans le voisinage, c'était au bistrot du coin, et maintenant, ça a pris une ampleur beaucoup plus importante, qui est mondiale, parce que bien sûr, les réseaux sociaux, Internet, et on sait que les fake news, ou en tout cas les news à propos de la santé, les informations santé sont les plus partagées, et dans le lot... Bah, tout n'est pas à jeter, on ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais dans le lot, il y a beaucoup d'informations qui sont partagées, qui sont fausses. Alors les sites internet, je suis directeur médical de Doctissimo, on vérifie, on a des experts, on donne une information qui est crédible, mais on sait que dans la jungle d'internet, il y a énormément d'informations qui sont ce qu'on appelle des fake news ou des recettes de grand-mère. Alors vous le disiez, ça peut être bénin, mais ça peut être beaucoup plus embêtant.
Quelle est la frontière entre une idée reçue en santé, plus ou moins inoffensive, et une fake news en santé, Laurent Foiry?
Ça va être la finalité, finalement. Ça va être la finalité. La fake news en santé, en général, elle n'est qu'une étape intermédiaire avec un objectif beaucoup plus précis à la fin, alors qu'il peut être multiple en fonction des gens qui la propagent. Ça peut être à des fins économiques pour vendre un certain nombre de produits dérivés, de compléments alimentaires ou autres, comme ça peut être à des fins politiques, religieuses ou tout simplement psychologiques, parce qu'il y a des gens, pour des questions égotiques, sous un fonctionnement peut-être un petit peu de type gourou, vont s'accaparer ces fake news pour créer des communautés qui leur sont acquises.
Alors que les idées reçues en santé... Par exemple, quand on dit « lire avec peu de lumière abîme la vue », ça, il n'y a pas de finalité, et c'est a priori inoffensif.
On peut parler de légende urbaine, dans certains cas aussi, ou de transmission d'un certain savoir. Il n'y a pas de finalité, il n'y a pas un vrai danger de lire avec ou sans lunettes ou avec ou sans lumière. C'est pas vraiment le sujet. C'est quand ça commence à déborder... sur le sujet réellement médical, quand on commence à donner des faux conseils ou de mauvais conseils pour l'arrêt de traitement ou ce genre de choses, là on commence à déborder et on n'est pas loin de la frontière illégale.
Docteur Kirzek.
Il y a un effet post-Covid aussi, c'est-à-dire que la parole, je trouve, a été assez décrédibilisée pendant le Covid, c'est normal, on ne connaissait pas tout, et au lieu d'avoir de la prudence, on avait beaucoup dans le discours médico-médiatique des espèces d'avis un peu péremptoires, et donc on a entendu tout et son contraire, parfois dit par les mêmes personnes, parfois dit par les autorités aussi. maladie, et ça a un peu décrédibilisé la parole à la fois médicale sur les plateaux de télé, et nous, enfin moi je le vois en consultation avec des gens qui ne prennent plus la parole médicale comme étant une parole d'évangile. Alors c'était pas le cas avant, mais quand même il y a une certaine autorité, il y a une certaine connaissance, on est dans le partage de l'information, et c'est vrai qu'au même niveau que les politiques, où parfois on met les journalistes dans le lot aussi, les médecins se mettent dans le même bain.
Boris Ancel.
Oui, moi ce qui est grave, c'est qu'il y a beaucoup de conseils qui paraissent inoffensifs et qui sont dangereux. Moi je dis clairement, la fake news, la fausse information, c'est en soi un problème de santé publique. Parce que, prenons l'exemple de la nutrition, qui est mon domaine de prédilection, eh bien, quand vous entendez des informations, et on va vous donner quelques exemples qui sont plus ou moins fondés, et qui sont extrapolés à partir d'informations d'il y a quelques dizaines d'années ou d'informations peu fiables, eh bien, finalement les gens s'accrochent à ça. Et pendant ce temps-là, ils vont suivre des conseils qu'ils ont entendus de la part d'influenceurs, de la part de réseaux, de la part de pseudo-soignants, et pendant ce temps-là, ils ne vont pas être pris en charge. Donc pour moi, il y a un problème de santé publique parce qu'il y a une perte de chance. Moi, j'ai l'habitude de voir dans mes consultations des personnes qui viennent avec 20 ou 30 ans de retard pour des maladies comme une obésité, qui est une maladie chronique, un diabète, une hypercholestérolémie, et qui pendant des dizaines d'années ont entendu ces conseils qui peuvent paraître inoffensifs, mais pour moi, ils sont offensifs. Parce que même si eux ne sont pas forcément dangereux, pendant ce temps-là, vous n'êtes pas suivi. Et donc vous arrivez alors que les maladies ont bien évolué.
Alors Laurent Foiry, depuis la crise sanitaire, les discours complotistes en matière scientifique et médicale se sont développés comme des algues toxiques. Un sondage Ipsos publié en 2022 indiquait que 50% des Français exprimaient une grande méfiance à l'encontre de la parole scientifique. De plus en plus de personnes à travers le monde et dans notre pays nient le consensus scientifique validé par la communauté des chercheurs. Et on appelle cela le dénialisme.
Exactement, j'allais revenir sur un point que Gérald indiquait à l'instant. La pandémie a été un accélérateur en fait de tout ça. Le dénialisme, c'est finalement ce qui caractérise la négation de faits scientifiques avérés en faveur d'idées controversées, qui vont être toutes plus ou moins farfelues, mais de manière très claire, non étayées. Si on revient un petit peu en arrière au moment du Covid, en fait, on a été dans une période d'assez grande confusion. En fait, en réalité, si on se remet en mars 2020, on a un confinement qui arrive, on sait qu'on a un virus qui arrive d'Asie. Il a l'air d'être assez méchant, pour parler simplement. Et puis se succèdent sur les plateaux télévisés des chercheurs en tout genre, donc des scientifiques, des médecins, des pharmaciens, qui viennent exprimer leur point de vue. Mais quelque part, qui font rien de mal, ils expriment un petit peu l'état d'avancée de la recherche. Et on est en train d'avancer progressivement, et les médias ont ni plus ni moins mis le projecteur sur ce qui se passait, c'est-à-dire ce qui se passe tous les jours dans les laboratoires, qui est la controverse scientifique au fur et à mesure où on avance, c'est ce qui se passe dans les colloques, dans les séminaires, sauf qu'on n'a pas prévenu le grand public que cette phase où on a l'impression que les gens ne savent pas ou disent tout et leur contraire, c'est une phase normale ou une étape normale de la recherche, et quand on est perdu et qu'on n'a pas les éléments pour raisonner, on se réfugie quelque part dans les émotions, et c'est bien là le problème des fake news justement qui finissent par s'installer parce que ça flatte plus les émotions, c'est plus sympa à écouter, plus sympa à regarder, et ça peut avoir des conséquences parfois dramatiques.
Le dénialisme, c'est donc, comme vous l'avez dit, le rejet du consensus scientifique en faveur d'idées radicales controversées, comme celle défendue par le gourou crudivoriste Thierry Casasnovas.
Il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas de maladie. Je veux dire, il n'y a pas de maladie. Enfin, si ce qu'on définit par maladie, alors déjà, la définition de la maladie, mais la maladie, c'est le méchant microbe ou le méchant bactérie ou le méchant virus qui vient t'attaquer pour te faire du mal parce qu'il n'avait rien d'autre à faire et qu'il n'avait pas de copain pour jouer au flipper, ce n'est pas une maladie. Je veux dire, c'est pas faire du conspirationnisme ou quoi que ce soit pour dire que le virus du sida n'existe absolument pas. Même le professeur Luc Montagnier, qui l'a trouvé, a bien dit « Non mais attendez, on avait fait une modélisation, mais en fait c'était pour de rire, on avait dessiné ça avec des copains un soir où on était bourrés, mais il n'y a pas de virus du sida. »
Alors les dénialistes comme Thierry Casasnovas réfutent les preuves scientifiques et préfèrent s'appuyer sur d'anciennes théories invalidées ou de fausses théories fondées sur des faits inventés et un argumentaire erroné. Prenons donc l'exemple des viro-dénialistes qui nient l'existence des virus ou de l'origine virale de certaines maladies. Ces croyants pensent que les virus n'existent pas, comment peut-on penser que le virus HIV, le virus de la grippe, le virus de l'herpès, le virus du Covid n'existe pas, Laurent Foiry ? C'est l'objet de votre livre, Les faux savants.
Oui, ou même du rhume, tout simplement, ou d'une varicelle, pour ceux qui l'ont expérimenté directement au travers des enfants. C'est une histoire qui remonte assez loin, en fait, en réalité. Ça remonte au 19e siècle, à un moment où, au début du 19e siècle, où on se posait la question sur l'origine des maladies, ou en tout cas de certaines maladies. Et on s'affrontait notamment deux courants, le courant des contagionnistes et le courant des infectionnistes. Les contagionnistes étaient ceux qui pensaient que la maladie pouvait venir d'un agent extérieur, donc en l'occurrence un agent pathogène, tandis que les infectionnistes pensaient que c'était une forme d'intoxication. Donc on pensait à des toxines, notamment les systèmes de traitement des eaux usées n'étaient pas au point à cette époque-là. Et déjà se poser la question, lorsqu'il y avait des épidémies à cette époque-ci, de quelle manière il fallait se protéger ou protéger les populations, confinement, pas confinement, confinement partiel, donc on voit que c'est pas nouveau, ces sujets-là. Et donc à cette époque se sont affrontés deux chercheurs, Antoine Béchamp et Louis Pasteur, sur ces différentes thèses. Louis Pasteur ayant finalement abouti ses travaux à la théorie des germes, sur laquelle aujourd'hui repose toute la médecine moderne concernant tout ce qui est infection bactérienne ou virologique. Tandis que Béchamp pensait que ce qu'on observait au microscope était la résultante d'une détoxification du corps, ce que d'ailleurs indique Casas Novas dans l'extrait que vous avez cité, où finalement ces agents pathogènes n'existeraient pas, mais ce qu'on observe, c'est ni plus ni moins que l'expression du corps qui se détoxifie.
Et quel est le consensus scientifique sur les maladies virales ?
Aujourd'hui, on les caractérise très bien, les virus. On sait, on les voit.
Ils sont clairement identifiés depuis les années 1930. Hein.
Exactement. C'est beaucoup plus tard, parce que finalement, cette origine extérieure des maladies a été identifiée fin du 19e siècle, mais c'est qu'effectivement, au début du 20e, qu'on va être en mesure de pouvoir les observer. Et aujourd'hui, donc, on les observe très bien. On a même certains virus qu'on peut observer en microscopie optique, ce qui n'était pas le cas, évidemment, à l'époque, avec les moyens du bord. Puis on a découvert une famille de virus qui est visible de cette manière. On sait les utiliser, on sait les manipuler. Hein. Certaines thérapies géniques reposent sur l'utilisation des virus. On sait même les filmer aujourd'hui pour voir la manière dont ils fonctionnent. On sait les isoler et les purifier. Ce sont deux choses différentes en virologie, qui sont d'ailleurs utilisées par les virodénialistes. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on maîtrise parfaitement bien.
Pourquoi le VIH, le virus responsable du sida, identifié en 1983, c'est le point de départ d'un nouveau vent qui porte les virodénialistes, tous ceux qui nient l'existence des virus. Expliquez-nous un petit peu le rôle du VIH chez les virodénialistes.
Ça a été effectivement une résurgence assez forte du courant virodénialiste, parce que à cette époque-ci, avant que le virus soit caractérisé, en tout cas soit séquencé et identifié, on se posait la question de l'origine du sida. Et notamment qui avait été mise en évidence dans des communautés homosexuelles aux États-Unis, se poser la question, est-ce que c'était réellement une maladie contagieuse, donc reposant sur un vecteur, on ne savait pas si c'était un virus ou pas à cette époque-ci, ou bien est-ce que ce n'était pas lié aux pratiques des personnes qui manifestaient les premiers symptômes ? Est-ce que ce n'était pas un problème d'intoxication ? On ne savait pas. Et le problème à cette époque-ci, quand bien même le virus a été caractérisé derrière, il y a eu même des virologues qui se sont positionnés en expliquant qu'on ne pouvait pas corréler les symptômes avec ce virus.
C'est assez troublant quand des chercheurs, des médecins doutent de l'existence des virus.
Et ça met le bazar dans le grand public, parce que finalement, on se demande qui a raison. En l'occurrence, Peter Duesberg, qui était un virologue très compétent et qui avait fait des super travaux à l'époque, a été un chantre du virodénialisme à l'époque. Et d'ailleurs, ça a été assez loin, hein, parce qu'en Afrique du Sud, à la fin des années 90, hein, le président à l'époque en place était, lui, d'un virodénialisme. Il ne croyait pas au lien entre sida et VIH. Et les conséquences, c'est 300 000 morts à peu près estimées, et puis un taux de séropositivité dans la population de plus de 10%.
Vous avez enquêté donc auprès de cette communauté de virodénialistes qui nient donc l'existence des virus. Pourquoi ces gens croient dur comme fer que les virus n'existent pas ?
Il y a un petit côté culpabilité chez ces personnes, c'est finalement de leur expliquer vous ne dépendez pas de facteurs extérieurs, si vous êtes malade c'est de votre faute. Donc vous devez vous reprendre en main, vous devez pas écouter ce qu'on vous dit. On joue sur la culpabilité. Maintenant, il y a des gourous dans cet environnement-là. Pour revenir par exemple au phénomène du dénialisme à l'époque des années sida, la plupart des chercheurs qui militaient en faveur d'une intoxification étaient par ailleurs des personnes qui avaient créé des entreprises de vente de compléments alimentaires, d'additifs, de vitamines, pour justement proposer des solutions miracles pour guérir. Il y a toujours des motivations indirectes.
Vous avez constaté, Laurent Foiry, une maîtrise assez superficielle du sujet, de nombreuses erreurs de compréhension et de raisonnement parmi ces groupes virodénialistes.
Oui, mais c'est compliqué la science. La virologie est pas simple, la santé au sens large n'est pas simple, donc c'est quelque part un terrain idéal pour manipuler. Et notamment les sujets qui sont utilisés par les virodénialistes sont des sujets excessivement techniques. Pour citer un seul exemple, lorsque les virodénialistes expliquent qu'on n'a jamais isolé un virus de toute notre vie, c'est pas totalement faux si on joue sur la sémantique, dans le sens où isoler en virologie veut dire extraire un virus de son milieu, le milieu où il vit, pour le mettre dans un milieu in vitro. En revanche, on sait les purifier. Mais il faut être spécialiste de la chose pour pouvoir argumenter.
En tout cas, ces virodénialistes se qualifient souvent comme des chercheurs indépendants, des personnes qui s'identifient à des chercheurs persécutés en leur temps, comme Galilée et sa thèse alors controversée, qui plaçait le soleil au centre de l'univers.
Il y a plein d'exemples dans l'histoire de la science de chercheurs qui ont été challengés et qui ont mis beaucoup de temps pour que leurs travaux soient reconnus derrière. C'est d'ailleurs, ça s'appelle l'effet Semmelweis aujourd'hui, du nom de ce médecin hongrois qui a identifié les causes, notamment des décès chez les mamans qui accouchaient dans des hôpitaux, qui étaient liés à un personnel qui ne se lavait pas les mains, tout simplement, mais qui a eu mis du temps à imposer sa thèse. D'ailleurs, il est décédé dans un asile de la folie et on a mis beaucoup de temps à se rendre compte de cet effet. Donc les dénialistes utilisent souvent cette excuse en disant « nous, on a raison, mais on le saura que plus tard ».
Docteur Kirzek.
Ce qui est fondamental, c'est de bien comprendre que dans la culture scientifique, dans la méthode scientifique, le doute, la nuance, ça en fait partie. Or, ça doit rester dans le champ de la communauté scientifique et au moment du Covid, c'est sorti dans le grand public et c'est là où ça a mis le bazar. Mais la nuance, le doute, et justement pour éviter de censurer et de censurer peut-être des théories qui s'avéreraient vraies dans quelques années, il faut se garder d'être dans une censure intellectuelle. En revanche, quand on a des contre-vérités, comme ce qu'on vient d'entendre dans le sonore, où on explique que le virus n'existe pas, alors que c'était vrai au départ, c'était vrai il y a un siècle, mais un siècle après, on sait qu'on a évolué, on a les outils pour voir. Et c'est le deuxième point sur lequel je voudrais venir, c'est qu'il y a toujours un début de vérité dans le discours des dénialistes ou dans le discours des complotistes. Ça repose toujours sur un fait qui est vrai ou qui était vrai mais il y a un siècle et qui a été démontré maintenant faux aujourd'hui, ou ça repose toujours sur cette notion de virus par exemple. Bien sûr que c'est pas le virus avec un organisme sain, bah vous n'aurez pas le rhume, alors que le virus avec un organisme qui est fragilisé, bah c'est l'organisme fragilisé qui va provoquer les symptômes. Donc oui, il y a un début de vérité scientifique, mais on tord cette vérité.
Gérald a prononcé un mot très important, c'est la nuance. Et aujourd'hui, on est dans une difficulté qui croît, malheureusement. C'est d'un côté, on a de plus en plus de données scientifiques, et ça, on peut s'en féliciter, de plus en plus de recherches, de plus en plus d'études qui sont faites. Et de l'autre côté, on a de plus en plus de communication. Et là, il y a un problème, parce qu'on ne peut pas communiquer et extrapoler à partir des données scientifiques du jour, des recommandations pour la population générale. Et aujourd'hui, malheureusement, et ça, je dois dire qu'on est tous responsables, y compris les scientifiques, on va publier quelque chose, par exemple, vous publiez quelque chose en nutrition, vous montrez que tel type de graisse est associé à tel type de maladie, tout de suite, on a envie d'en parler, les médias ont envie d'en parler, le public a envie de sensationnel, et donc vous allez avoir à la une des journaux, si vous mangez tel type de graisse, vous allez avoir telle maladie. Sauf que ça, c'est une donnée scientifique isolée qui devrait être mise dans un contexte. Et ça, on l'oublie trop souvent. Et donc moi, je me bats pour ça, pour qu'on mette de la nuance et que quand on fait de l'information médicale pour le grand public, on ne prenne pas en compte uniquement la dernière étude. Il n'y a rien de pire que la dernière étude, mais qu'on ait un peu de nuance et qu'on ait la connaissance de l'ensemble des données. Et ça, tout le monde n'est pas en mesure de le faire.
Grand bien vous fasse.
Alors n'hésitez pas à varier les plantes pour votre mal de dos, c'est pas dangereux. Il y a de la sauge, il y a violette, il y a aussi coquelicot, il y a même un peu de basilic et là on a l'impression de manger de salade.
Sur France Inter.
Et ce matin, nous évoquons quelques idées reçues et fake news dans le domaine de la santé, plus ou moins farfelues, plus ou moins dangereuses. Je vous propose d'écouter les conseils santé générés par une intelligence artificielle sur le réseau TikTok.
Si tu bois du café avec du citron tous les matins à jeun, tu perdras les mauvaises graisses de ton ventre. Commence par choisir un citron jaune bien frais. Presse-le pour obtenir le jus que tu verseras dans un récipient. Garde la peau du citron et découpe-la en petits morceaux. Prends ensuite un morceau de gingembre, épluche-le et conserve la moitié. Coupe cette portion en petits morceaux. Place la peau de citron et le gingembre dans une casserole, ajoute 2 à 3 verres d'eau, puis porte le tout à ébullition. Une fois bouilli, filtre le mélange pour ne récupérer que le jus. Remplis un verre avec ce jus et ajoute un peu du jus de citron que tu as pressé. Pour finir, incorpore une cuillère à café de café instantané dans le verre. Consomme ce mélange chaque matin à jeun pour profiter de ses bienfaits amincissants.
Quand des intelligences artificielles propagent des fake news sur des réseaux sociaux comme TikTok, là je m'adresse au professeur en nutrition Boris Ancel.
Oui, mais vous savez, cette IA, elle est partie d'idées qui circulent et qui sont basées sur quelque chose. Par exemple, le café, la caféine, un petit effet pour booster le métabolisme. J'ai déjà utilisé des termes que vous allez voir un peu partout. Vous avez le citron, vous avez une étude qui a été financée par des producteurs de jus de citron qui montre que vous perdez du poids. Sauf que, je ne vais pas aller plus loin dans la description de cette IA, sauf que pour ce qui est de la caféine, c'est un effet qu'on voit au niveau de la cellule. Au niveau humain, cliniquement, quand vous donnez du café aux gens, vous n'allez pas avoir un effet sur le poids. Et ni même sur l'amincissement. Et pour ce qui est du jus de citron, l'étude que j'ai mentionnée, c'est une étude qui n'a pas eu de véritable groupe témoin. Ça veut dire qu'on n'a pas comparé jus de citron avec autre chose et qu'on sait très bien que dès lors que vous entrez dans une étude clinique et que vous buvez quelque chose, vous mangez quelque chose ou qu'on vous pose les mains sur la tête ou qu'on fait peu importe, vous allez perdre du poids. Donc, on part de petites informations pseudo-scientifiques ou de mauvaise qualité et on construit une fake news.
Alors, il est très difficile pour les médecins, les chercheurs, de contrer ces discours complotistes, ces idées fausses, ces fake news médicales qui prolifèrent sur Internet et sur les réseaux sociaux. Laurent Foiry, je rappelle que vous êtes docteur en génétique moléculaire et biologiste. Pourquoi une partie du public est aussi sensible à tous ces contenus? C'est parce que ces fausses informations touchent davantage l'émotionnel que le rationnel?
Oui, exactement, ça touche l'émotionnel. Et puis, il faut reconnaître que ce contenu qui est un petit peu alternatif, dont on n'a jamais rarement entendu parler avant, est souvent assez séduisant. La manière dont c'est présenté aujourd'hui, il suffit de regarder quelques vidéos TikTok pour voir à quel point on est happé, en fait, par ce type de contenu. Je ne parle pas, par exemple, des platistes, où les vidéos sont en général d'un esthétisme absolument incroyable. Donc on y va, on a tendance à plonger. Et ensuite, comme je disais tout à l'heure, c'est compliqué pour s'y retrouver et pour comprendre. Et pour ces personnes qui sont dans cette croyance quelque part du dénialisme, ce sont pas des gens qui doutent, j'allais revenir sur un point dont on parlait tout à l'heure, mais ce sont évidemment des gens qui doutent, mais qui ne sont pas dans une démarche constructive. C'est ça le vrai point. Ce sont pas des gens qui cherchent réellement à comprendre, ce sont des gens qui cherchent à affirmer leur croyance. Et c'est toute la distinction avec la démarche scientifique et la méthode scientifique. Quand on reste dans la croyance, on reste dans l'émotionnel.
Et je rappelle que les dénialistes sont toutes celles et tous ceux qui réfutent le consensus scientifique. Alors j'aimerais qu'on s'arrête sur quelques fake news, quelques idées fausses en matière de santé, plus ou moins dangereuses. Une idée fausse assez dangereuse, docteur Gérald Kierzek, de plus en plus de personnes considèrent que les vaccins sont dangereux et inefficaces. Que répondez-vous à ces anti-vax ?
Pour le coup, là, on a des preuves scientifiques documentées sur l'efficacité, les maladies qui ont été éradiquées, la variole qui a été éradiquée de la planète grâce aux vaccins, par exemple. Donc, il y a des vaccins, indiscutablement, qui ont eu une efficacité mesurée, mesurable. Ça, c'est des choses qui sont irréfutables. Alors, après, ça n'empêche pas qu'il faut un discours sur des effets secondaires. Les effets secondaires des vaccins, ça existe. Et aller dire...
C'est normal, parce qu'il s'agit de médicaments.
Comme les médicaments, il y a une balance bénéfice-risque, mais le bénéfice est largement en faveur de la vaccination. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'avoir un discours en disant il y a zéro effet secondaire des vaccins est un mauvais discours, parce que ça va renforcer le discours complotiste et ça va renforcer le discours des extrêmes dans un sens ou dans l'autre. C'est un peu la même chose en politique. Les extrêmes vont s'alimenter l'une l'autre, et bien c'est exactement la même chose sur le discours sur les vaccins. Donc les anti-vax s'alimentent, se gargarisent de dire, voyez, on vous a dit qu'il y avait zéro effet secondaire, alors qu'il y a des effets secondaires qui peuvent être minimes, qui peuvent être plus graves aussi. On peut avoir des effets secondaires graves des vaccins, mais ce qui est sûr, c'est que sur la globalité scientifique, le bénéfice des vaccins est indiscutable.
Laurent Foiry ?
Non, puis ensuite, il y a des sujets dont on entend souvent parler. J'allais parler du cas Wakefield, qui est le cas le plus connu, d'une publication de Lancet dans 98 qui faisait état d'une corrélation entre les vaccins et l'autisme, qui s'est révélée être une fraude, mais on a mis quasiment 12 ans pour
la
rétracter.
On va la rappeler, une fake news tenace indiquait que l'autisme serait causé par le vaccin ROR, le vaccin rubéole au rayon rougeole. Le chirurgien britannique Andrew Wakefield affirmait en 1998 que ce vaccin ROR était responsable d'un syndrome du trouble autistique. Il s'agissait d'une étude falsifiée publiée dans la revue The Lancet qui s'est rétracté depuis. Entre 2004 et 2010, le journaliste d'investigation Brian Deer du Sunday Times a révélé l'existence de liens d'intérêt non déclarés entre Andrew Wakefield et une organisation d'avocats anti-vaccination qui avait sponsorisé cette fausse étude. Alors depuis, Andrew Wakefield a été évidemment radié à vie de l'équivalent de l'Ordre des médecins britanniques, qui a constaté donc de nombreuses malhonnêtetés et pointé du doigt la mise en danger de patients, la violation de l'éthique médicale. Et précisons enfin que plusieurs études robustes ont montré l'absence de lien entre l'autisme et la vaccination.
Sauf que souvent le mal est fait, c'est-à-dire qu'une fois que c'est parti, une fois qu'il y a eu une news comme ça, fausse, qui a fait la une des journaux, ça reste un autre exemple entre les vaccins et les maladies, c'est la polémique autour de la vaccination contre l'hépatite B, qui est une maladie qui donne des cirrhoses, qui est une maladie à vie chronique et qui peut être mortelle, et ça aurait déclenché cette vaccination contre l'hépatite B, et ça aurait eu un lien avec la SEP, avec la sclérose en plaques. Ça a été là aussi largement démontré par des études, des méta-analyses, etc. Donc il n'y a pas de lien entre la vaccination contre l'hépatite B et la sclérose en plaques, sauf que ça reste encore dans l'inconscient collectif, c'est encore propagé, utilisé par des antivax, etc., alors que ça a été largement démontré. C'est-à-dire que la rumeur ou l'information inexacte au début fait son mal, et après c'est extrêmement difficile à démonter, pas à démontrer, à démontrer ça l'a été, mais à démonter dans l'esprit du public.
Et certaines auditrices et certains auditeurs qui croient à la toxicité des vaccins pourraient vous rétorquer que vous défendez bec et ongle l'industrie pharmaceutique, le monstre Big Pharma.
Alors, ce serait mal me connaître parce que je suis un défenseur de la vaccination, des vaccins quand il y a un bénéfice évident parce que la maladie est grave et il faut vacciner. En revanche, vacciner des gens qui n'ont pas de bénéfice parce qu'ils ont un organisme qui est capable de se défendre, là, il n'y a pas de raison de vacciner. Donc, comme toujours en médecine, on doit être dans une balance bénéfice-risque et on doit peser les indications.
Professeur Boris Ancel.
Oui, tout à l'heure, vous demandiez qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas finalement à faire passer des messages auprès du grand public. Et pour reprendre l'exemple de la vaccination, et je précise, j'ai zéro lien d'intérêt avec toute industrielle, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a des effets secondaires, c'est vrai, mais ils sont très très rares. Alors, imaginons que... une personne qui a un effet secondaire, il y a des maladies neurologiques qui peuvent arriver, polyradiculonévrite par exemple, très très rare, mais quelqu'un va témoigner. Eh bien, évidemment, ça, on joue sur l'émotion. Tout le monde va regarder ça et tout le monde va se dire « ça pourrait m'arriver ». Et or, ça n'arrive pas à tout le monde. C'est un peu comme le loto. Quand vous voyez à la télé le gagnant du loto, 30 millions d'euros, vous dites « mais... si ça lui est arrivé, ça peut m'arriver à moi demain. Sauf que malheureusement, Ali, ça ne vous arrivera pas. Statistiquement, ça ne vous arrivera pas. » Et donc, l'information à travers un témoignage d'une situation rare devient l'information perçue comme, voilà, c'est ce qui peut arriver.
La vérité scientifique, alors que c'est la vérité individuelle.
Et on ajoute à ça l'idée qu'il peut y avoir des fraudes, on ajoute à ça l'idée qu'il peut y avoir des liens d'intérêt pas déclarés, et évidemment, vous faites de moins en moins confiance à la science.
Laurent Foiry, toutes celles et tous ceux qui croient à la toxicité des vaccins, tous ceux qui ne croient pas à l'existence des virus, toutes ces communautés, toutes ces personnes éprouvent de la défiance à l'encontre de la médecine conventionnelle. Comment s'explique cette défiance? Quelles sont les raisons fréquentes que vous avez repérées?
On vient d'en citer un certain nombre d'exemples sur lesquels repose cette défiance, mais souvent ce sont des gens qui sont arrivés là, qui avaient déjà une prédisposition en fait à la défiance de manière générale envers les institutions. Et il faut reconnaître que ça s'est accentué ces dernières années, notamment au gré des réseaux sociaux et des algorithmes, qui progressivement, ces personnes qui se posent des questions, qui rentrent en défiance, vont commencer à s'intéresser à certains sujets, et les algorithmes vont progressivement les enfermer et les piéger, et les alimenter de plus en plus par des fake news de plus en plus extrêmes, et dans lesquelles ils vont se conforter et se renforcer entre complotistes ou entre défiants. Donc, et après, il suffit de rajouter les éléments qu'on a indiqués, la fraude scientifique, les rumeurs, le cherry picking quelque part.
C'est quoi ?
Le cherry picking, c'est je vais choisir, bah, par exemple, j'ai un effet grave sur le vaccin, je connais un cas dans un environnement proche ou la cousine du cousin de la voisine, mais ça va suffire à en faire une généralité derrière pour attester que c'est nocif pour tout le monde.
Tous ceux qui rejettent le consensus scientifique s'appuient sur plusieurs piliers, Laurent Foiry. Le rejet de la méthode scientifique, l'utilisation de preuves sélectives ou erronées, l'utilisation d'arguments fallacieux, la négation du consensus scientifique, et puis il y a toujours, plus ou moins, l'existence de motivations cachées. Voilà, là, c'est quatre piliers que vous analysez dans votre livre.
Exactement. Ça fonctionne un petit peu comme un, j'allais prendre l'image d'un jeu vidéo, mais ça fonctionne par niveau. Finalement, ces différentes étapes, ça permet de capter des gens avec des sensibilités qui vont être assez différentes. Mais finalement, ce principe du virodénialisme, c'est comme je l'indiquais tout à l'heure, n'est qu'une étape vis-à-vis d'une finalité. Et le virodénialisme va fonctionner un peu comme une NAS, va permettre finalement de capter des gens qui vont être prédisposés à croire d'autres choses. Et on va être très honnête entre nous, le fait de capter des gens qui nient l'existence des virus et qui vont sombrer dans cette croyance-là très rapidement, ce sont des gens à qui on va pouvoir faire plein de choses assez facilement derrière parce qu'ils sont prédisposés et complètement ouverts, comme leur vendre des produits tous les plus farfelus les uns que les autres, leur faire financer des formations qui ne servent absolument à rien, des dons tout simplement, et puis devenir des ambassadeurs de causes qui peuvent être annexes comme des causes politiques ou religieuses.
Gérald Kierzek.
Ce qui est assez dramatique, c'est qu'on voit une accélération. Il y a eu l'effet Covid accélérateur, il y a l'économie de l'attention des réseaux sociaux qui font que l'attention, ben c'est 30 secondes maintenant, donc on passe d'information en information. Vous rajoutez à ça l'algorithme avec ses fameux biais cognitifs, c'est-à-dire qu'on vous enferme véritablement dans un monde où il n'y a plus possibilité d'avoir de la nuance, d'avoir une fenêtre ouverte sur un autre point de vue. Donc c'est assez dramatique et je pense que ça ne va pas s'améliorer. Alors la réponse à ça, c'est sûrement pas l'argument d'autorité ou l'argument péremptoire ou la censure, parce que ça ne ferait que renforcer en disant, ben voyez, on veut nous cacher ça, ou regardez, c'est nous qui avons raison. Et on veut vous faire taire. Donc il faut faire très attention et introduire dans le combat contre les fake news, justement, de la nuance, là aussi, accepter un certain nombre de choses, essayer de démontrer pour pouvoir démonter les fake news. Mais il faut reprendre un peu les mêmes arguments. C'est-à-dire qu'il faut essayer d'arriver avec quelque chose de nouveau, d'arriver avec de la facilité, d'arriver avec de la rapidité. Parce que quand on voit bien qu'en 30 secondes, on peut passer une fake news, ça veut dire qu'avec 30 secondes, il va falloir donner un argument qui fait mouche. Parce que sinon, ben on n'a aucune chance, ou en tout cas, on n'est pas à armes égales. Mais de dire, par exemple, pour revenir sur les vaccins, il y a zéro effet secondaire, c'est très contre-productif. C'est ce qui a été dit un peu pendant le Covid. Moi, vous savez, je me suis toujours gardé de dire qu'il fallait vacciner, par exemple, les enfants de moins de 12 ans, comme ça a été proposé. Pourquoi ? Ben parce qu'il n'y avait pas de bénéfice, et toutes les études démontrent qu'il n'y avait pas de bénéfice à ce vaccin. Et marteler qu'il fallait à tout prix vacciner, ça s'est apparu comme étant un argument d'autorité, un argument qui s'est avéré faux.
Vous êtes d'accord avec ça, Laurent Foiry ?
Oui, non, mais complètement. La nuance, c'est quelque chose qu'on a perdu. Et notamment, on l'a vu pendant la période de la pandémie, c'était assez compliqué, on l'observait, de reconnaître les choses qu'on sait, les choses qu'on ne sait pas encore. Et c'est vrai que c'est compliqué d'accepter qu'on ne peut pas tout savoir à un instant T, mais encore une fois, on était quelque chose qui était en phase de découverte. Et ça, c'est assez problématique.
Le professeur Ansel.
Oui, moi, je voudrais... qu'on soit capable, nous, médecins, nous, scientifiques, de faire aussi notre autocritique. Oui. C'est pas la faute des gens. Si vous voulez, les gens, eh ben, ils sont soumis à une pression de publicité, une pression marketing, une pression des réseaux sociaux. Et finalement, ben, quand c'est pas votre métier, quand vous ne connaissez pas, quand vous n'avez pas été formé à la démarche scientifique, ben, vous savez pas trop à qui faire confiance. Et on sait plus trop qui nous parle, y compris des soignants qui parlent d'un domaine qui n'est pas le leur, parce qu'ils ont aussi leur intérêt, etc. Donc, je pense que nous, scientifiques, nous, médecins, on doit faire notre autocritique et on doit apprendre à communiquer ensemble et à respecter aussi, à respecter ce que disent nos autorités de santé. Parce qu'il y a un travail qui est fait par nos autorités de santé. Parfois, il n'est pas parfait. Moi, ça peut m'arriver, des fois, de ne pas être tout à fait d'accord avec une recommandation. Mais je pense que c'est notre rôle de soutenir cette recommandation, justement pour éviter ce brouhaha qui, finalement, fait du mal. Parce que vous allez être mal soigné. Et vaut mieux se tromper à un moment donné avec une recommandation d'autorité sanitaire qui sera peut-être corrigée dans un an, deux ans, plutôt que ne plus faire confiance aux autorités et puis finalement, bah, vous soigner avec ce que dit un tel ou une telle sur un réseau social, alors que c'est pas du tout quelqu'un de compétent.
Docteur Kirzek.
Et même si un tel ou une telle est un professionnel de santé ou se présente comme tel, parce que c'est pas toujours le cas, et c'est là où intervient la déontologie et le code de déontologie, où on ne doit faire état que de choses qui sont prouvées par la science, on doit faire preuve de modération, et je pense que la déontologie, ça serait pas mal de le rappeler, parce que c'est pas parce qu'on est médecin qu'on peut parler sur tous les sujets avec un ton comme ça péremptoire en donnant des recettes, surtout quand il y a effectivement des intérêts derrière.
Laurent Foiry, il faut peut-être distinguer les croyants de bonne foi dans ces idées fausses qui, à cause de certains parcours de vie, se sont retrouvés à croire dans ces fake news médicales, dans ce complotisme médical, et puis tous les cyniques qui utilisent ces souffrances et qui sont des, entre guillemets, des ingénieurs du chaos.
Non mais exactement, j'allais faire la distinction entre, en faisant l'analogie avec les sectes, entre les gourous et les adeptes. Les adeptes, la plupart d'entre eux, sont authentiques, ils croient, et, en tout cas, ont envie d'y croire et sont du coup les meilleurs ambassadeurs qui puissent exister parce qu'on leur a fourni les arguments pour aller évangéliser, entre guillemets, leur marché ou leur audience. Tandis que ceux qui en profitent, les ingénieurs du chaos, comme vous indiquez, ou les gourous, eux ont un intérêt derrière. Et un des intérêts principaux qu'on peut retrouver dans cette démarche-là, c'est une dimension quand même économique, parce que beaucoup de gens vivent à la fin. Et c'est ce que j'appelle le conspi business dans le livre, mais c'est finalement, il y a un modèle économique assez robuste qui existe derrière, qui permet de correctement en vivre, avec finalement très peu de barrières à l'entrée, très peu d'investissements, et on est, en l'occurrence sur le virodénialisme, on est dans une petite niche économique où il n'y a pas beaucoup de concurrence, donc il n'y a pas beaucoup de gens qui ont envie d'y aller, mais ça permet de bien prospérer, de correctement en vivre, sans trop investir.
France Inter.
Je crois même qu'il y a une belle journée qui se prépare.
Ali Rebéi.
Ah bon ? Eh bien, grand bien lui fasse.
Sur France Inter.
Et ce matin, nous évoquons quelques idées reçues et fake news dans le domaine de la santé, plus ou moins farfelues, plus ou moins dangereuses, en compagnie du professeur Boris Ancel, du docteur Gérald Kirzek, et avec Laurent Foiry, docteur en génétique moléculaire et biologiste, qui publie « Les faux savants plongés au cœur du complotisme scientifique ». Allez, on va évoquer quelques idées reçues plus ou moins légères. Gérald Kirzek, ma grand-mère maternelle, me disait souvent « Couvre-toi, tu vas attraper froid ». C'est vrai ou pas ?
On peut avoir froid, mais on ne va pas attraper le rhume parce qu'on a froid. C'est-à-dire que le rhume est lié à des virus, des rhinovirus en particulier. Alors, ils peuvent plus ou moins survivre en fonction des conditions de température, mais le fait d'avoir froid, c'est pas le froid qui provoque le rhume. C'est vraiment le virus qui provoque le rhume. Alors, c'est vrai que le froid peut favoriser un certain nombre de virus, pas tous d'ailleurs, parce qu'il y a des virus qui sont plutôt d'ailleurs inhibés par le froid. Moi, ma grand-mère, c'est ce qu'elle disait. Elle disait ne t'assois pas sur une pierre qui est mouillée parce que tu vas attraper une infection urinaire. Ça aussi, c'est un truc qui
est faux aussi. Hein.
Ben oui, qui est faux, bien sûr.
Laurent Foiry, les virodénialistes, ceux qui ne croient pas à l'existence des virus, comment ils expliquent la grippe, le rhume, le Covid ?
Alors, ils ont une bibliopléthorique pour expliquer chacune des maladies. Pour un virodénialiste, la maladie, c'est la résultante de la détoxification du corps. Donc, l'origine externe, elle n'existe pas. Donc, par exemple, pour la varicelle, ça va être les produits d'entretien dans une crèche, qui va expliquer qu'il y a plusieurs enfants qui soient malades en même temps. C'est en général toujours une toxine quelconque qui apparaît à un moment donné. Je ne vais pas déborder sur les ondes 5G, évidemment, dont on a beaucoup entendu parler pendant la période de pandémie. Ça peut être le DDT, un produit chimique qui est utilisé dans certains cas pour d'autres maladies. Il y a toujours une explication et la bibliographie qu'ils ont établie permet de créer un lien entre les deux, mais il n'y a pas d'études scientifiques qui montrent aucune corrélation.
Et voilà pourquoi il y aurait le produit miracle qui va désintoxiquer ou désintoxifier, je ne sais pas comment on dit, mais en tout cas c'est une toxine. Hop, comme par hasard, il y a un produit miracle qu'on peut acheter pour la modique somme de, et connectez-vous sur tel site internet.
Allez, quelques idées reçues en nutrition, professeur Boris Ancel. Tiens, les crampes se soignent grâce à la prise de magnésium.
Alors ça, c'est un exemple typique de l'extrapolation. C'est le magnésium joue un rôle essentiel au niveau cellulaire, au niveau de la contraction musculaire, il interagit, je pense, en détail avec le calcium. Et donc, on a toute une logique au niveau de la physiologie, du fonctionnement du corps humain, pour dire que ça va empêcher les contractions involontaires des muscles et les crampes. De là, vous vous dites, donc, je dois manquer de magnésium si j'ai des crampes. Si je prends du magnésium en complément alimentaire, je vais éviter les crampes. Et c'est sur cette base-là que
il y a énormément de propositions publicitaires, je dis ça, publicitaires, pour prendre du magnésium. Alors, on vous dit, ah ben non, mais c'est telle forme de magnésium qu'il faut prendre, parce qu'on vous explique qu'au niveau de la cellule, ça va mieux marcher. Le problème, c'est que pour prouver que chez l'humain, ça fonctionne, il faut faire des essais cliniques. Et quand vous faites les essais cliniques où vous donnez du magnésium ou un placebo, manque de bol, ça ne marche pas. Donc aujourd'hui, on a suffisamment de données scientifiques pour dire que prendre un supplément de magnésium, c'est pas ce qui va réduire les crampes. Alors évidemment, si on a une carence, une maladie, ou une carence en magnésium, bah, ça peut donner des crampes, et donc on va corriger les crampes avec le magnésium. Mais attention à ne pas distinguer la carence, qui est une maladie, de ce qu'on appelle une sorte de déficit ou d'un apport en magnésium qui est un peu en dessous de ce qui est idéalement recommandé. Parce que c'est là-dessus que se basent ceux qui veulent vendre du magnésium. Mais non, le magnésium n'est pas la réponse aux crampes.
Laurent Foiry, une idée reçue qui n'est peut-être pas fausse, l'effet placebo n'existe pas.
Oui, en fait, l'effet placebo, ça fait très 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 longtemps qu'il a déjà été testé ou validé. On peut remonter même au XVIe siècle sur ce sujet. Aujourd'hui, on commence un peu mieux à comprendre comment l'effet placebo fonctionne. Notamment, un des exemples les plus connus est, pendant la Seconde Guerre mondiale, un médecin qui, arrivant à court de morphine, injectait finalement une solution saline à ses patients, leur faisant croire que c'était de la morphine, et voyait un certain effet. On sait qu'aujourd'hui, les circuits dopaminergiques et endorphines fonctionne un minimum, c'est pas pour autant que c'est un médicament, mais l'effet placebo aujourd'hui a une base, il existe.
Et il y a même l'effet nocebo qui est l'inverse, c'est-à-dire si on vous dit vous allez avoir tel ou tel symptôme, vous allez en être intimement convaincu et vous pouvez parfois ressentir ces symptômes.
Et pour ce qui est du magnésium, justement, je dirais que ça peut fonctionner comme un placebo.
Hein, une autre idée reçue en nutrition, Boris Ancel, le sucre brun, le sucre roux est meilleur que le sucre blanc.
Oui, parce que souvent on a l'idée que sucre roux, c'est un sucre qui est plus qui est pas raffiné, qui serait plus riche en fibres, en minéraux. Alors c'est vrai qu'au kilo, vous avez beaucoup de minéraux dans le sucre roux, mais en réalité, aux quantités raisonnables de consommer, eh bien, ça n'a strictement aucun intérêt. Donc si vous voulez choisir entre un sucre roux ou un sucre blanc, vous choisissez celui que vous aimez et arrêtons d'imaginer que parce qu'il y a un petit peu de minéraux là, ça va faire le plein de potassium et autres minéraux.
En revanche, le sucre roux, ce n'est pas la même chose que le sucre complet. Dans le sucre complet, on peut retrouver davantage de minéraux et d'oligo-éléments.
Alors, le sucre complet, c'est un terme qui n'est pas tout à fait réel. C'est ce qu'on utilise justement pour vendre un sucre qui serait plus intéressant, mais dans la composition, soit en fibres, en minéraux, aucun intérêt. Donc, vraiment, prenez celui que vous aimez.
Tiens, le vin rouge, c'est bon pour le cœur, on l'entend
alors
souvent.
Ça, on l'entend, c'est vrai que, bon, il y a certainement des lobbies derrière, il y a un rationnel, qui est de dire que c'est antioxydant, il y a du resveratrol, non mais tout ça, vous le lisez un peu partout, Ali. Il y a eu même toute l'idée du French paradox, hein, où on disait, oh là là, on se rend compte que la France est prémunie contre les maladies cardiovasculaires par rapport à d'autres pays. On s'est rendu compte que ce n'est absolument pas lié au vin. Et au fur et à mesure que le temps passe, on se rend compte que cette relation supposée entre une consommation modérée de vin et une protection cardiovasculaire, elle est tout simplement fausse. Et non seulement elle est fausse, mais on a plutôt maintenant la preuve que quand vous consommez de l'alcool, vous allez augmenter vos risques d'insuffisance cardiaque, qui est une des principales causes de handicap et de mortalité en France. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas boire de vin. Je suis en train de vous dire simplement qu'on ne boit pas du vin pour la santé, et encore moins pour la santé du cœur. Si on boit du vin, c'est uniquement pour le plaisir.
Gérald Kirzek.
C'est un bon exemple, le vin, parce que c'est encore un truc non seulement qui traîne, mais qui a été utilisé. On sait que c'est le lobby des alcooliers, ça a probablement sauvé la filière dans les années 60, de dire tiens, on va trouver un argument santé. Et l'argument santé est toujours très bon, parce que comme l'argument sécurité, finalement, il peut être instrumentalisé et ça intéresse les gens. Mais il faut le redire, zéro verre d'alcool, c'est ça qui est le meilleur pour la santé. L'histoire du petit verre de vin, c'est effectivement sur le plaisir, mais le plaisir, il faut vite l'arrêter, parce qu'on rappelle les recommandations, c'est 5 verres par semaine et pas tous les jours.
Deux verres par jour et pas tous les jours.
Docteur Gérald Kirzek, une idée reçue assez tenace voudrait que le stress chronique à lui seul puisse provoquer le cancer.
Alors non, ça c'est là aussi on prend des études avec le rôle du stress. Oui, le stress a un rôle sur le système immunitaire. Donc si le système immunitaire est plus faible, il y a une protection contre le cancer qui est plus faible. Mais c'est pas à lui seul, et c'est cette partie de la phrase qui est fausse, c'est que le stress à lui seul ne provoque pas le cancer. Il y a des événements plurifactoriels, il y a le terrain génétique, il y a l'environnement, il y a des mécanismes qu'on ne connaît pas encore, et le stress est un facteur. C'est très culpabilisant de dire à des malades du cancer que c'est le stress qui a provoqué leur cancer. C'est très culpabilisant pour les familles. Alors, si on le tourne positivement, on pourrait dire, bah tiens, si le stress a un rôle, le fait de diminuer ce stress va m'aider. Et ça, c'est vrai. Ça va m'aider à supporter la chimiothérapie, à avoir une qualité de vie améliorée, mais surtout ne pas penser que le stress à lui seul peut être responsable des maladies. C'est la même chose dans les maladies infectieuses. Il vaut mieux être moins stressé, on aura plus de défense immunitaire, par contre.
Laurent Foiry, certains pensent que jeûner ou arrêter le sucre contribue à guérir le cancer. On sait qu'un chercheur en gériatrie, le chercheur américain Walter Longo, défend le jeûne thérapeutique avant de faire une chimiothérapie pour limiter les effets de la chimiothérapie. Mais certains extrapolent ce type de recherche en prétendant que jeûner ou arrêter le sucre contribue à guérir le cancer.
On aura beaucoup parlé de nuances dans cette émission et on est dans la nuance. En fait, ça repose le fondement sur les travaux de Otto Warburg, qui était un médecin allemand au début du XXe siècle, qui d'ailleurs a eu un prix Nobel, pas sur ce sujet-là, sur un autre, mais dans les années 30, qui avait identifié le fait que les cellules cancéreuses consomment, pour schématiser, énormément de sucre. Ce qui n'est pas complètement illogique, parce que les cellules cancéreuses ont un phénomène de développement anarchique et donc elles ont besoin d'énergie pour pouvoir se reproduire, donc elles ont besoin de trouver cette énergie. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que 20% des besoins énergétiques d'une cellule pour se multiplier viennent de l'effet Warburg, et donc 80% viennent d'ailleurs. Et là encore, on ne peut pas généraliser. Effectivement, carencé en sucre pourrait avoir un effet, d'une certaine manière, mais ce n'est pas généraliste. L'absence de sucre ne permet pas de guérir le cancer, le jeûne non plus.
Tiens, une dernière idée reçue suggérée par notre réalisatrice Claire Destacan. Il paraît qu'il ne faut pas manger d'orange le soir. Ça empêche de dormir. C'est vrai ou pas, ça ?
Totalement faux. Ça a été...
Moi, ma grand-mère me le disait souvent quand je voulais manger une orange le soir.
Parce qu'elle a la vitamine C, c'est ça ?
Oui, voilà.
Donc c'est totalement faux. Et ça pourrait même être peut-être l'inverse. Donc, j'ai envie de dire... ni je vous impose de manger des oranges, ni je vous interdis. En fait, en nutrition, les injonctions, c'est jamais bon. Et donc, sur ce point précis, faites comme vous le sentez.
Et pour terminer, quelques pistes pour repérer la désinformation médicale. Il faut d'abord se demander d'où provient l'information, qui l'a émise, dans quel but. Est-ce une rumeur ou bien un fait avéré? Existe-t-il un consensus scientifique sur le sujet? Évidemment, plusieurs études comparables avec le même protocole, c'est mieux qu'une étude isolée. Et puis, pour faire le tri dans les informations scientifiques, il est possible de consulter une banque de données comme Transparence Santé. Et puis aussi, on peut consulter des sources solides comme Canal Détox de l'INSERM ou Zeste de Science au CNRS. Laurent Foiry, peut-être d'autres moyens pour lutter contre la désinformation médicale, hormis France Inter, France Culture,
Doctissimo,
ou votre chaîne PUMS.
PUMS pour une meilleure santé. Et je précise, c'est une chaîne qui regroupe un collège de près de 100 experts hospitalo-universitaires. Et je peux vous dire que la nuance, là, vraiment, on travaille dessus. Et Canal Détox aussi travaille très bien pour ça. Et il y a des sources aujourd'hui d'informations santé fiables. Et je pense qu'il faut encourager les gens à y aller pour savoir qui vous parle.
PUMS pour une meilleure santé.
Et ça n'empêche pas d'avoir de l'information qui peut être fun, qui peut être de la réaction à l'actualité. C'est pas chiant la science, ou c'est pas chiant d'avoir des experts. Et nous à Doctissimo, on a par exemple une cinquantaine d'experts aussi, et on traite des sujets d'actualité qui sont parfois des sujets légers, mais on les traite de manière sérieuse.
Et on peut citer quelques influenceurs scientifiques au contenu pédagogique robuste, comme Dr Nozman. D'autres pistes, Laurent Foiry, pour terminer, pour repérer la désinformation scientifique ?
La repérer, ça reste difficile, comme je disais tout à l'heure. La science, ça reste compliqué. Donc le meilleur moyen, c'est de lire énormément. Et c'est de rester critique, quoi qu'on lise, de rester critique. Mais quand on est critique, on est dans une démarche constructive. Donc on n'ignore pas les sources, on n'ignore pas les études. Et on n'ignore pas ce qui ne nous arrange pas. On intègre tout.
Merci Laurent Foiry. Je recommande la lecture des faux savants plongés au cœur du complotisme scientifique aux éditions de l'Aube. Merci docteur Gérald Kierzek et professeur Boris Ancel. Demain, le bonheur selon Christophe André.